jusqu'à 21h.
Le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et nous retrouvons cette semaine une nouvelle chroniqueuse pour un billet international. Bonsoir Marie.
Bonsoir. Alors, vous venez de l'entendre, ce week-end, c'était le premier tour d'une élection présidentielle haute en couleur au Brésil. Mais dimanche dernier, une autre élection avait lieu et se tenait au Cameroun. Les Camerounais, en effet, ont voté pour élire celui qui succédera à l'actuel président, Paul Biya, 85 ans et à la tête du pays depuis 35 ans. Alors, le résultat n'a pas encore été rendu public, il devrait être annoncé dans quelques jours au moment où nous enregistrons, mais il est très probable que Biya entame un 7e mandat. Mais alors, qui est ce vieux monsieur qui pourrait gouverner jusqu'à ses 92 ans? Quel défi devra-t-il relever s'il est réélu à la tête du Cameroun? Eh bien, je vous propose de découvrir quels sont les enjeux, et vous allez voir qu'ils sont très nombreux, de cette élection dont on parle trop peu.
Alors déjà, qui est ce Paul Biya qui pourrait être élu pour un 7e mandat?
Alors Biya passe d'abord quelques années au séminaire avant de partir étudier en France à Louis-le-Grand, à la Sorbonne puis à Sciences Po. À son retour au Cameroun, il travaille au gouvernement du président Amadou Ahidjo, devient Premier ministre avant de succéder à Ahidjo quand celui-ci démissionne en 1982. Commence alors une présidence qui va certes durer longtemps, mais qui ne va pas être de tout repos. Déjà, Biya échappe à plusieurs tentatives de coup d'État, la dernière étant celle d'avril 1984. Les putschistes sont exécutés, mais ce putsch manqué va laisser Biya très affaibli. Ensuite, on accuse Biya de fraude et son parti de truquer les élections, comme en 1992, lorsqu'on le soupçonne d'avoir volé la victoire au candidat du Front social-démocrate. Et puis, Biya est également critiqué pour son mode de vie. Il aurait dépensé, d'après une enquête, 157 millions en voyages privés ces 35 dernières années, et on sait aussi que lui et sa femme fréquentent, pour des motifs toujours inconnus, un prestigieux hôtel 5 étoiles à Genève. Vous commencez donc à le comprendre, Paul Biya était loin d'être un président modèle. Et en fait, il ne l'est toujours pas. La preuve par ces deux dates. En 2006, il est accusé d'avoir utilisé l'opération Épervier, lancée pour lutter contre la corruption au sein de la classe politique camerounaise, pour écarter du pouvoir d'éventuels opposants politiques. Et en 2008, il modifie la constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs, une mesure qui est vue par beaucoup, comme un pas vers la dictature.
Mais alors, est-ce que Biya peut vraiment être réélu ?
Alors la réponse, bien qu'incertaine, serait plutôt oui, même si on sait bien que des fraudes et des bourrages d'urnes fausseront probablement les résultats des élections. Le problème, c'est que Maurice Kamto, un des 8 opposants à Biya et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ainsi que Cabral Libii, ont revendiqué leur victoire en dénonçant les fraudes orchestrées par le pouvoir. Pour l'instant, la situation est donc instable. D'un côté, Kamto et Libii s'estiment vainqueurs, mais de l'autre, le gouvernement dénonce cette affirmation. Même s'il est réélu, Biya est qualifié par beaucoup de dictateur, accusé d'organiser des élections uniquement pour se faire, entre guillemets, bien voir des pays occidentaux.
Quoi qu'il en soit, le vainqueur devra faire face à des défis nombreux, non ?
Alors effectivement, déjà, le président devra gérer une population jeune dont les conditions de vie restent précaires, même si Biya a promis, je cite, « l'émergence du pays pour 2035 ». Alors ces quelques chiffres pourront peut-être vous éclairer sur la situation actuelle au Cameroun. Déjà, les 3/4 des 22 millions de Camerounais ont moins de 25 ans. Ils n'ont connu que la présidence de Biya et souhaitent voir du nouveau. Ensuite, 1/4 de la population vit avec moins de 2$ par jour. Le chômage est massif, l'accès aux soins difficile et le Cameroun se classe parmi les 30 pays les plus corrompus au monde. Ensuite, le prochain président devra aussi faire face à une situation économique compliquée. Alors ne soyons pas pessimistes, la croissance est repartie en 2018 après un ralentissement lié à la chute des coûts du pétrole parce que le Cameroun a réussi à diversifier son économie. Autre élément positif, en mars dernier, le port en eau profonde de Kribi est entré en service et devrait booster les exportations du pays. Mais le problème, c'est surtout la dette croissante du Cameroun. Le taux d'endettement du pays a presque doublé depuis 2012 et le pays s'est fait une réputation de mauvais payeur qui n'attire pas les investisseurs. Investisseurs qui sont d'ailleurs peu enclins à investir au Cameroun en raison du climat d'insécurité. C'est ce qui nous mène au troisième défi auquel devra faire face le nouveau président. Lutter contre une insécurité liée aux deux crises majeures qui secouent le Cameroun. La première difficulté majeure que connaît le pays, c'est l'insécurité liée à Boko Haram, ce mouvement terroriste djihadiste qui agit au Niger, mais également dans l'extrême nord du Cameroun. Et la deuxième crise que le pays devra surmonter, c'est la crise des régions anglophones.
La crise des régions anglophones, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors oui, c'est pas si compliqué, vous allez voir. Après la Première Guerre mondiale, la gestion du Cameroun, qui est alors une colonie allemande, est confiée aux Français à l'est et au Royaume-Uni à l'ouest. En 1961, ces deux entités forment une république fédérale. Mais en 1972, le président, donc le prédécesseur de Paul Biya, veut supprimer ces deux États fédérés pour les remplacer par une république unie du Cameroun. En 1983, Biya ne fait qu'aggraver la situation. Alors pourquoi ? Parce qu'il divise la région anglophone en deux provinces, nord-ouest et sud-ouest, il abandonne le terme de république unie du Cameroun, et il va même jusqu'à supprimer la seconde étoile du drapeau camerounais qui représentait les régions anglophones. Depuis, les habitants de ces deux régions anglophones du Cameroun, soit 20% de la population, multiplient les revendications pour dénoncer leur marginalisation. Ils se disent sous-représentés dans les ministères et au gouvernement, et effectivement un seul des 36 ministres est anglophone. Ils se plaignent également que l'anglais, pourtant une langue officielle au même titre que le français, n'est pas toujours employé dans les documents officiels ou par les fonctionnaires, et dénoncent des infrastructures sous-entretenues, un taux de chômage élevé et un retard économique réel. Et les habitants, pour finir, les habitants de ces régions ne font pas que dénoncer la marginalisation dont ils sont victimes. Ils s'opposent également aux forces de l'ordre dans des combats qui sont parfois violents. Et surtout, ils réclament la création d'un nouvel État, l'Ambazonie, et souhaitent retourner à l'État qui a prévalu entre 1961 et 1972, à savoir deux États au sein de la même République du Cameroun. Et ces manifestants ont même été jusqu'à proclamer symboliquement, en octobre dernier, leur indépendance vis-à-vis des francophones. Face à cette situation, Biya prône le dialogue et les réformes, une position qui ne va sans doute pas suffire si les revendications et les affrontements entre séparatistes armés et forces de l'ordre se poursuivent.
Et le mot de la fin pour ta chronique, Marie ?
Alors finalement, à l'issue d'une élection boycottée en zone anglophone et marquée par une forte abstention, on peut se demander quel virage va prendre le Cameroun. D'après un proverbe camerounais, peu importe la hauteur de laquelle on tombe, l'important est celle à laquelle on rebondit. Eh bien, il ne reste plus qu'à voir si le Cameroun sera à même de rebondir pour faire face aux crises majeures qu'il connaît aujourd'hui.
Merci beaucoup Marie pour ce premier édito international, et tout de suite on te retrouve Arthur pour donc ta notion pourrie.